Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. En Allemagne, une nouvelle manifestation hier à l'appel de l'extrême droite dans les rues de Chemnitz, dans l'est du pays. Reportage à suivre avec notre correspondant sur place, Ludovic Piétenu. Nous irons aussi en Jordanie, où la décision de supprimer les aides américaines en direction des réfugiés palestiniens aura des conséquences pour les 120 000 enfants palestiniens scolarisés en Jordanie, nous dira Jérôme Brouzewski. À Bogota, il serait près d'un million de Vénézuéliens à avoir quitté leur pays, poussé par la pauvreté et les pénuries notamment. Reportage à suivre avec notre envoyé spécial Benjamin Illy. Et puis en France, nous prendrons la température à la Baule auprès des militants du parti Les Républicains, déboussolés alors que LR faisait sa rentrée hier en ordre dispersé. Dans l'est de l'Allemagne, une nouvelle manifestation hier à l'appel de partis xénophobes ou anti-islam comme l'AFD ou Pegida. À Chemnitz, une semaine après la mort d'un Allemand de 35 ans tué à l'arme blanche par des étrangers en situation irrégulière, selon les éléments de l'enquête, plus de 6000 personnes se sont rassemblées dans le centre de la ville pour demander plus d'ordre et de sécurité tout en criant leur colère face à un gouvernement fédéral qui les accuse de laxisme. Le reportage à Chemnitz de notre envoyé spécial en Allemagne, Ludovic Piétenu.
Köln, Berlin, Flensburg, Kandel, Chemnitz.
Ce manifestant, Matthias Henke, a écrit sur une pancarte le nom des villes allemandes concernées récemment par des agressions, des meurtres ou des faits divers. Un point commun, à chaque fois, des étrangers en situation irrégulière sont impliqués. Pour Anti, une autre manifestante à 48 ans, elle dit avoir peur quand elle sort. Pour elle, le problème, ce sont les musulmans. Ça ne fonctionne pas, dit-elle. L'islam ne fait pas partie de notre société. Tout ça n'a aucun sens. L'islam n'est pas d'ici. Quelques manifestants antifascistes tentent d'infiltrer, de perturber le cortège. La police, plus nombreuse que les fois précédentes, plus d'un millier d'hommes s'interposent. Deux camps se font face, deux Allemagnes. L'une venue marquer son soutien à la politique migratoire du gouvernement, affirmer la logique d'accueil et de tolérance. L'autre scandant, si tu n'aimes pas l'Allemagne, tu la quittes. Ou bien encore, Merkel doit partir, accusant la chancelière de laxisme. Ces derniers sont une partie de l'Allemagne, mais ils savent comment se faire entendre, donner de la voix et occuper le terrain.
9 personnes ont été blessées selon les autorités en marge de ces rassemblements hier. Les États-Unis ont décidé de supprimer aussi 300 millions de dollars d'aide au Pakistan, une annonce faite ce matin par quelqu'un qui donc porte la parole du Pentagone. Washington accuse Islamabad de ne pas mener d'action décisive et de collaborer même avec certains groupes de combattants islamistes qui lancent des opérations en Afghanistan à partir de zones de non-droit le long de la frontière. Alors que vendredi soir, Donald Trump a annoncé la suppression de l'aide américaine en direction de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, une décision qui risque d'avoir de lourdes conséquences en Jordanie aussi, où plus de 120 000 enfants palestiniens réfugiés retournent à l'école aujourd'hui. Mais pour combien de temps, alors que l'Agence des Nations Unies qui gère le fonctionnement des écoles dans les camps fait face à cette crise budgétaire sans précédent, la Jordanie déploie d'importants efforts diplomatiques pour lever des fonds. À Amman, Jérôme Brozewski.
La Jordanie ne veut pas porter seule le fardeau des réfugiés palestiniens. Ils sont 2 millions sur son sol, dont 120 000 enfants qui fréquentent les écoles de l'agence onusienne dans les 10 camps que compte le pays. Or, l'UNRWA est menacée. L'agence a besoin de 200 millions de dollars pour boucler son budget annuel. Les écoles peuvent fonctionner jusqu'à la fin du mois. Ensuite, eh bien, c'est l'inconnu. Les États-Unis ont déjà indiqué qu'ils ne verseraient plus aucune contribution, critiquant de manière véhémente le travail de l'UNRWA et s'étonnant du nombre grandissant de réfugiés reconnus par l'agence. La Jordanie riposte donc sur le terrain diplomatique. Elle prévoit d'organiser à New York une conférence des donateurs à la fin du mois. Elle prévoit aussi de réunir les ministres des Affaires étrangères des pays arabes pour lever des fonds. La Jordanie est un allié fidèle des États-Unis, mais le ministre jordanien des Affaires étrangères a critiqué Washington de manière à peine voilée. Pour lui, aucun pays n'a le droit de décider qui est réfugié, qui ne l'est pas. Il a rappelé qu'une définition du réfugié existe déjà et que les résolutions du Conseil de sécurité reconnaissent le droit de ces réfugiés palestiniens à l'aide humanitaire, au retour sur leurs terres et à des compensations. En d'autres termes, c'est à la communauté internationale dans son ensemble et donc aux États-Unis, entre autres, de contribuer à l'accueil des réfugiés en Jordanie.
Jérôme Brouzewski, plusieurs victimes dans des frappes aériennes israéliennes contre une base militaire syrienne près de Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une forte explosion a eu lieu cette nuit. Le Venezuela traverse une crise migratoire sans précédent. Selon les Nations Unies, la pauvreté et les pénuries en tout genre ont poussé plus d'1 600 000 Vénézuéliens à quitter leur pays depuis 2015. Cela représente presque 8% de la population. Le gouvernement de Nicolas Maduro met en cause une intervention étrangère dans cette crise dont il tente de minimiser l'ampleur. Dans la capitale colombienne, il serait près d'1 million à avoir fui le Venezuela. À Bogota, le reportage de notre envoyé spécial Benjamin Ely.
Bien, bien.
La calle 140 et ses commerces de rue, tenus pour la plupart par des migrants vénézuéliens, Diego en fait partie.
Bollitos.
Il vend des bollitos.
Bollitos venezolanos.
Un plat typique du Venezuela à base de farine de maïs.
Harina de maïs.
Il a 38 ans, il a quitté son pays il y a 10 mois, fatigué par l'aveuglement du président Nicolas Maduro.
En Venezuela, hay una crisis grave.
Au Venezuela, il y a une crise grave et lui, il ne veut pas assumer, il ne veut pas faire face. Il est en train de tuer le peuple, il fait fuir le peuple, littéralement. Nous ne migrons pas, nous fuyons notre pays.
Venezolana?
Si.
Comment te llamas?
Angie,
31 ans. Arrivé il y a 6 mois avec sa fille, elle n'a pas de papier, pas de permis de séjour. Malgré son diplôme de comptable, pour s'en sortir, elle vend des fruits. 14 heures de travail par jour, raconte Angie. Sans papier, difficile de trouver un bon emploi. Mon rêve, c'est de rentrer dans mon pays, bien sûr. Quand la catastrophe sera derrière nous, comme ce mauvais gouvernement, nous n'avons pas d'eau, pas d'électricité là-bas, nous n'avons rien. Je préfère être ici, travailler dans la rue qu'être là-bas, dit Angie, toujours souriante, entraînant son petit chariot derrière elle.
Reportage de Benjamin Ely, envoyé spécial à Bogota pour France Culture. Les pays de la région doivent se réunir à partir de demain à Quito, dans la capitale de l'Équateur, pour faire le point sur la situation. En France, la phase de test du prélèvement à la source a permis d'identifier des erreurs et de les corriger, a déclaré sur Twitter hier soir le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Une réaction après les révélations du journal Le Parisien, s'appuyant sur un document confidentiel de la direction des finances publiques. Selon Le Parisien, cette note technique d'une trentaine de pages dresse un bilan effrayant de la phase de test, où le bilan montre notamment un record de 350 000 erreurs sur un seul mois, avec le risque de prélever plusieurs fois le même contribuable. Les Républicains font leur rentrée politique en ordre dispersé. À la Baule, hier, 600 personnes, militants et élus, étaient présents. Parmi les têtes d'affiche, Christian Jacob, Brice Hortefeux, Nadine Morano et encore Bruno Retailleau. Mais pas de traces en revanche de Laurent Wauquiez, le président du parti, et encore moins de Valérie Pécresse, ce qui a poussé quelques militants à se confier à Jérôme Collin.
Michel, une militante de longue date en Loire-Atlantique, a du mal à y croire.
L'unité, vous me voyez effectivement un petit peu perplexe parce que quand j'entends certaines déclarations, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore de ce côté-là. Mais ce serait bien effectivement, si on veut gagner, que chacun mette un petit peu son ego de côté et puis essaie de rassembler les qualités de chacun.
Valérie Pécresse, qui a fondé son micro-parti Libre, et Xavier Bertrand, sont particulièrement pointés du doigt. Clément leur adresse un message et il défend la ligne politique de Laurent Wauquiez.
Il y a un président de parti et on ne peut pas constamment être opposé au parti, vouloir faire ses propres choses dans son coin. Si à ce moment-là, ils ne sont plus d'accord avec le parti, bien qu'ils s'en aillent, la porte est grande ouverte.
Alors qui pour rassembler ? Bruno Retailleau bénéficie d'une certaine cote de popularité, mais Colette lui reproche d'avoir quitté son poste de président du Conseil régional des Pays de la Loire.
On a fait sa campagne, j'ai fait beaucoup de tractages. Moi, j'ai eu l'impression qu'il nous a laissé un petit peu sur le bord de la route.
Et pourtant, les militants le savent, Emmanuel Macron a eu un été très mouvementé. Il y a donc une place à prendre au sein de l'opposition.
Contre la démission du lot, l'affaire Benalla et tout ce qui vient.
Donc c'est une opportunité aussi pour nous les Républicains justement de revenir sur ces sujets.
Chez les Républicains, on l'assure, le parti ne sera pas que dans l'opposition. Il veut aussi proposer un projet, une alternative.
Et propagé par Jérôme Collin, Daniel Cohn-Bendit sera-t-il le remplaçant de Nicolas Hulot au gouvernement ? Dans une tribune publiée aujourd'hui dans le journal du dimanche, l'ancien député européen écologiste, dont le nom circule pour le poste désormais vacant de ministre, appelle Emmanuel Macron à se servir de cette démission pour surmonter l'iceberg des conservatismes et impulser un sursaut collectif en faveur de l'environnement. Le texte du JDD est également signé par l'eurodéputé Pascal Durand et le député La République En Marche, Mathieu Orphelin. Alors que dans un sondage IFOP publié aujourd'hui, réalisé après le départ de Nicolas Hulot, 78% des personnes interrogées, 78% d'entre elles souhaitent que l'écologie et la protection de l'environnement constituent une priorité dans l'action du gouvernement. Un temps très largement ensoleillé pour votre dimanche, seules exceptions, quelques nuages sur la Savoie et la pointe du Finistère, temps couvert aussi sur l'Alsace. Côté température, 17 degrés à Chambéry, Paris, Amiens ce matin, 20 à Poitiers, 22 à Bordeaux, 25 degrés à Nice. Cet après-midi, on grimpe d'environ 4 degrés en moyenne, 22 degrés à Lille, 26 à Ajaccio, 28 degrés à Narbonne.